Bonjour à tous. Je vous invite ce matin à revenir dans le royaume de Juda, 804 avant Jésus-Christ. On fait un saut dans le temps conséquent. Et cette année-là, c'est le couronnement d'un jeune roi qui est âgé de 25 ans, qui est très, très prometteur. Il s'agit d'Amatsia. Donc fils de Joas, roi de Juda. Donc il succède à son père, Joas, qui lui-même a exercé un très long règne de 40 ans. Et ce règne a été marqué par deux périodes. Une période de fidélité pendant la vie du souverain sacrificateur précédent qui s'appelait Yehoiada, et qu'il avait sauvé de la mort lorsqu'il avait un an, parce que la reine de l'époque, Athalie, qui était la fille de Jézabel, qui était très éloignée de Dieu, qui était une reine impie, avait fait tuer tous ses frères, et lui avait été sauvé par sa tante, cachée à l'âge de un an dans le temple. Il avait été caché pendant 6 ans, et après, il était devenu roi. Et pendant la vie du souverain sacrificateur qui avait organisé son intronisation comme roi, il a été fidèle à Dieu. Puis, il y a eu une deuxième partie où il a abandonné Dieu après la mort du souverain sacrificateur, Yehoiada. Et il est même dit qu'il a fait assassiner le fils de son bienfaiteur, le fils du souverain sacrificateur qui s'appelait Zacharie, qui était prophète et qui l'avait exhorté à revenir vers Dieu. Et on arrive à cette période de la fin du règne de Joas. 2 Chroniques 24-23 nous dit « Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. » Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, et les Syriens firent justice à Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Yehoiada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Donc ces événements se sont passés en 802 avant Jésus-Christ, 2 ans avant l'intronisation du nouveau roi. C'est donc une période de défaite militaire, une période de troubles dans le royaume, troubles de succession probablement, puisqu'on voit qu'il y a 2 ans qui se sont écoulés entre ces événements et l'intronisation du nouveau roi. Roi prometteur, mais dans une situation qui est difficile, qui est compliquée, à l'intérieur de ce royaume. Il s'agit d'un roi qui, contrairement à son père, fait le choix de marcher avec Dieu. Sa mère avait été d'ailleurs choisie par le souverain sacrificateur Yehoiada, et on peut penser qu'elle exerçait une bonne influence sur ce jeune roi. Et Amatsia dispose de plus de l'exemple de la vie de son père. Il a donc une ligne de conduite qui est de marcher avec Dieu. 2 Chroniques 25, que nous allons évoquer dans ce message, 2 Chroniques 25 nous raconte la vie de ce roi, Amatsia. Il nous est dit au verset 1, Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yoadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. 2 Rois 14 nous dit la même chose. qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père, il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Cette pratique avait été instaurée depuis le roi Salomon et était tolérée dans le royaume. Le tableau spirituel de ce roi est donc donné. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas avec un cœur entièrement dévoué. Alors moi, j'ai été frappé un petit peu par cette description. C'est pour ça que je vais vous parler de ce roi, hein, parce que bien souvent, je me retrouve un petit peu dans cette situation où on a un cœur qui est partagé. On veut vivre pour Dieu, mais on veut aussi accomplir parfois notre propre volonté. Et donc, sur cette base-là, quelle a été la vie d'Amatsia ? Quelles conséquences en tirer pour notre propre vie ? Alors, nous allons d'abord parcourir la vie de ce roi. Et la vie de ce roi, comme son père Joas, se déroule en deux périodes. Amatsia obéit à Dieu pendant la première partie de son règne. Il nous montre l'obéissance mise à l'épreuve dans différentes circonstances. Première circonstance, à partir du verset 3, 2 Chroniques 25, verset 3. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Amatsia applique la loi de Moïse, c'est le livre du Deutéronome, Deutéronome 24, 16, malgré les coutumes de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque quelqu'un était condamné, c'était toute sa famille qui disparaissait. Lorsqu'il y avait une défaite militaire, on exterminait toute la population. C'était un moyen de se prévenir contre la vengeance, contre les représailles éventuelles qu'il pouvait y avoir. Et donc cette pratique a dû surprendre, parce que ce n'était pas ce qui se faisait à l'époque. Cela manifeste le désir sincère d'obéir à Dieu, d'Amatsia, désir de faire régner la justice, désir aussi de limiter les représailles. Deuxième situation où Amatsia va manifester son obéissance à Dieu. On a vu que le royaume de Juda a connu une grave défaite militaire, l'armée est à reconstruire. Il faut avoir des moyens, il faut organiser des moyens nouveaux pour reconstruire le pays, reconstruire l'armée en particulier. Et on poursuit notre récit au verset 5. Il nous est dit qu'Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de famille et les chefs de centaine pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il fait donc un état des lieux, une évaluation des moyens dont il dispose. On peut noter au passage qu'il trouve donc 300 000 hommes d'élite. C'est beaucoup moins que ce dont le royaume de Juda disposait du temps de Josaphat, qui était quelques années auparavant, où on avait presque 1 million de personnes en état de porter les armes. Donc on voit qu'il y a eu une situation quand même très difficile. Donc 300 000 hommes d'élite. Sur la base de cette évaluation, il considère que ses forces sont insuffisantes pour faire face aux menaces extérieures qui pèsent sur le royaume, et il décide alors de faire appel à des mercenaires qu'il va chercher dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord qui rassemble les 10 tribus. De Chroniques 25, verset 6, il dit « Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Donc, il considère qu'il est nécessaire d'avoir 400 000 hommes. Il fait venir donc ces mercenaires qui représentent quand même le quart de l'effectif total de son armée. C'est pas un petit complément, c'est quand même quelque chose d'important. On peut dire qu'il agit en tant que roi avec une stratégie militaire cohérente, basée sur une évaluation de la situation, une évaluation objective et pragmatique. Simplement, les choses ne se passent pas ainsi. Ce projet, sage sur le plan humain, n'est pas approuvé par Dieu. Et donc, on continue notre récit à partir du verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Nous voyons qu'au final, ce n'est pas la stratégie humaine qui triomphe, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dieu n'approuve pas l'alliance des mercenaires qui viennent du royaume du Nord. Et il faut se rappeler à ce point-là que le royaume du Nord, lui, le royaume d'Israël, s'est entièrement détourné de Dieu. Il vit dans l'idolâtrie et la présence de mercenaires avec des valeurs idolâtres constitue un interdit, un obstacle spirituel qui entraînera inéluctablement la défaite. Il faut se rappeler que les rois précédents ont fait une alliance matrimoniale, puis une alliance politique avec le royaume du Nord, ce qui a entraîné déjà le royaume de Juda dans l'idolâtrie. Cette alliance a été extrêmement néfaste pour le royaume de Juda. Et donc, reprendre ces mercenaires constituait un danger majeur pour l'intégrité spirituelle du peuple du royaume de Juda. La victoire ne dépend pas des critères humains, la force, la puissance, l'argent, le pouvoir, l'influence, la beauté, mais il dépend de l'approbation de Dieu. Cela nous rappelle qu'en toute chose, dans tout choix, nous devons rechercher l'approbation de Dieu. Cela nécessite pour nous la prière, la réflexion. Cela montre aussi qu'il y a certaines alliances non plus qui ne sont pas bonnes pour nous. Et nous sommes appelés à veiller à ce niveau-là. Que va faire Amatsia par rapport à ce que le prophète est venu dire de la part de Dieu? Poursuivons au verset 9. Amatsia dit à l'homme de Dieu: « Mais comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit: « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. On voit qu'Amatsia accepte d'obéir à Dieu par la foi. Mais cela a de lourdes conséquences pour lui. Cette obéissance a un prix élevé. Il doit d'abord accepter de remettre en cause sa stratégie politique, militaire. On pense qu'il est au début de son règne. C'est donc une remise en cause déjà de sa politique. Il doit ensuite assumer les conséquences financières, tout à fait désastreuses, puisqu'il dépense en pure perte 100 talents. C'était une somme très forte pour l'époque. C'était donc 3400 kilos d'argent, je ne sais pas si vous imaginez. Solde pour 100 000 personnes quand même. Et on peut imaginer que cette somme a été difficile à récolter. Et donc il doit accepter de la perdre comme cela. On pourrait dire que ce n'est pas une bonne gestion en tant que roi. Donc il faut parfois accepter aussi de perdre quelque chose par obéissance envers Dieu et nous mettre dans sa dépendance. Parce que finalement, à ce moment-là, il faut accepter que c'est Dieu qui dirige les choses. Et cela aussi peut se produire dans notre vie. Il y a parfois des obéissances qui peuvent nous coûter. Mais lorsqu'on est dans cette démarche, eh bien c'est Dieu qui agit, c'est en lui qu'on se confie. Jésus avait dit, « N'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Donc Dieu pourvoit lui-même. Et là, comme on va le voir, Dieu va pourvoir pour Amatia suite à son obéissance. Cette obéissance a malgré tout des effets imprévus et contraires à ce qu'on attendait. On voit au verset 10 qu'il est dit, « Alors Amatia donc sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux, mais ils furent très irrités contre Juda. Et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Pourtant, ils ont été payés, mais ils ont l'impression d'être totalement méprisés dans cette situation. Et au verset 13, il est dit, « Cependant, les gens de la troupe qu'Amatia avait renvoyée, pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. » Situation épouvantable. Ils vont massacrer des gens, ils vont piller plusieurs villages en rentrant, non contents d'avoir reçu leur solde. Cela montre, entre parenthèses, quelle était leur valeur et leur mentalité. Et l'obéissance entraîne parfois des revers, des situations contraires que nous ne comprenons pas. Le diable essaie parfois de nous impressionner quand nous avons été fidèles par ce genre de choses. On voit ça plusieurs fois dans la Bible. On peut penser à Moïse lorsqu'il se présente devant le Pharaon. On voit la situation du peuple hébreu qui devient beaucoup plus difficile encore. On augmente les corvées. Le poids de l'esclavage devient plus fort. On peut penser, je pense aujourd'hui, aux diverses persécutions qui existent dans le monde, où l'obéissance de la foi va entraîner des conséquences très difficiles pour ces personnes-là. Cela nous rappelle que l'obéissance envers Dieu s'inscrit aussi dans un combat spirituel que nous avons à mener. Et il est nécessaire pour nous de veiller avec toutes les armes de Dieu afin de tout surmonter. Dans Éphésiens, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'obéissance d'Amatia se conclut finalement par une éclatante victoire sur ses ennemis, les Édomites, malgré le renvoi des 100 000 mercenaires. Verset 11, il nous est dit, « Amatia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. » Des détails qui nous font un peu frémir sur la façon de mener la guerre à l'époque. 1 Roi 14, verset 7, nous dit aussi, « Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktéel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. » Et Joktéel, ça veut dire « la récompense de Dieu ». Donc c'était une ville sûrement importante parmi les Édomites qu'il a pu conquérir à cette occasion. Et c'est là que tout va basculer de façon surprenante dans la vie d'Amatzia. Il est au comble de la victoire, de la réussite, et nous est dit brutalement au verset 14, lorsqu'Amatzia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors là, on ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. C'est au moment de la victoire qu'Amatzia va complètement chuter devant Dieu. Il abandonne Dieu pour les dieux d'Édom, qui est le peuple vaincu, ce qui était même incompréhensible dans la culture de l'époque. Parce que dans ces peuples païens, lorsque on menait la guerre, on l'a menée au nom des dieux du pays. Et le peuple qui était vainqueur, c'était la victoire du dieu c'était la victoire du dieu de ce peuple. On considérait que le dieu de ce peuple était supérieur au dieu des peuples vaincus, puisqu'il n'avait pas pu les délivrer. Mais là, on est en contradiction totale. Amatzia vient servir les dieux du peuple vaincu. Amatzia n'était pas prêt à assumer cette victoire. On n'a pas le détail de ses motivations à ce moment-là, mais au regard de la suite du texte, on peut penser que finalement il s'attribue la victoire à lui-même. Et il se sent assez fort dans cette situation de victoire pour se passer de Dieu. C'est une position d'orgueil qu'on va voir par la suite. Peut-être est-il aussi un peu déçu et en colère contre Dieu par rapport à cette incursion des mercenaires dont on a parlé, qui ont tué des gens, qui ont pillé plusieurs villes de Juda. Cela s'est produit apparemment en même temps que la guerre. Les mercenaires ont profité du départ de l'armée à la guerre, certainement, pour perpétrer leurs actions. Amatzia a sûrement appris ces choses-là à ce moment-là. Dans tous les cas, il décide de ne plus s'appuyer sur Dieu. Et je pense que les situations aussi de victoire pour nous, les situations où tout va bien, où tout se passe bien, peuvent aussi être des moments de défaite spirituelle, et il nous faut veiller par rapport à ça. On voit l'exemple du peuple d'Israël, où Dieu l'interpelle à plusieurs reprises, lorsqu'il rentre dans le pays promis, lorsqu'il sort du désert. Jérémie nous dit, ainsi parle l'Éternel, « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être même que néant ?» Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe ?» et où n'habite aucun homme, l'Éternel qui vous a soutenu dans l'épreuve, dans la difficulté. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ce qui arrive à Amatzia, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte lorsqu'il a été installé dans ce beau pays où coulait le lait et le miel. Alors, la suite de la vie d'Amatzia, on aborde sa deuxième partie, c'est une période d'endurcissement qui va se finir de façon tragique. À partir de là, Amatzia va refuser d'écouter Dieu, il va s'enfermer dans une attitude d'endurcissement. Pourtant, Dieu va essayer de le ramener à lui. Dieu ne l'abandonne pas dans cette situation. Et il lui envoie un prophète pour l'avertir. Verset 14. Lorsqu'Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, donc il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu, il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Mais pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatsia lui dit « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi ? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » À ce stade, revenir à Dieu serait toujours possible. Il n'aurait pas à subir les conséquences de sa chute. Dieu lui fait grâce. Mais son cœur est endurci. Son attachement à ses propres désirs, à ses projets, est devenu trop important à ce stade. Désormais, il veut contrôler sa vie lui-même. Il n'est plus prêt à tout abandonner à Dieu, comme il l'avait fait lors du renvoi des mercenaires. Et à ce stade-là, il continue dans ce chemin. Verset 17, il est dit, après s'être consulté, donc s'être consulté lui-même, il ne consulte pas Dieu, Amatsia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joacas, fils de Jéhu, le roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda. Cette fois, c'est Dieu qui va utiliser le roi Joas, qui est un roi impie, qui est un roi idolâtre. Il va l'utiliser pour lui parler une autre fois. Et il va lui dire, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ? Mais Amatsia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Voilà aussi que c'est Dieu qui conduit toutes choses et que, encore une fois, les critères finalement de la victoire sont des critères spirituels et pas des critères humains. Donc c'est cette fois ce Dieu impie qui avertit Amatsia de la part de Dieu et il lui dit les choses d'une façon extrêmement claire. Son projet d'attaquer le royaume d'Israël manque totalement de sagesse sur le plan humain. Les forces en présence ne sont pas égales et l'issue ne peut être que fatale pour Amatsia. C'est un fait objectif. Deuxièmement, Joas va même lui révéler les mobiles, les fondements de son action, puisqu'il lui dit qu'il est guidé par un orgueil démesuré qui l'entraîne vers un objectif qui est insensé. Dieu permet qu'Amatsia ait vraiment tous les éléments avant de prendre des décisions qui auront des conséquences redoutables pour lui et pour le royaume. Mais il est trop tard, il refuse encore d'écouter ce nouvel avertissement. On a l'impression qu'il y a une espèce d'enchaînement des choses qui se produit à ce moment-là. On peut penser à l'endurcissement du pharaon. Et là, malheureusement, Amatsia est dans cette problématique. On dirait qu'il n'est plus en mesure d'écouter. Pourtant, Dieu lui a laissé un temps. Dieu l'a averti. On continue au verset 21. « Et Joas, roi d'Israël, monta. Et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'amena à Jérusalem, donc il l'amène avec lui en tant que prisonnier, dans la capitale même du royaume de Juda. Il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, près de 200 mètres de long, certainement dans la partie la plus faible des fortifications. C'est la première fois qu'on démolissait les fortifications de Jérusalem depuis le roi Salomon, hein, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Edom, et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages pour terminer, et il retourna à Samarie. Donc c'est une terrible défaite militaire et particulièrement humiliante, puisque Amatsia doit assister lui-même à tout ça, à tout ce qui se fait, à tout ce que fait Joas contre Jérusalem. L'orgueil d'Amatsia a été brisé. Les proverbes disent « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et puis les choses se poursuivent, verset 25. « Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. » Le reste des actions d'Amatsia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël ? Depuis qu'Amatsia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachish. Lachish, c'était là où le prophète Michée nous dit que c'est là que l'idolâtrie a commencé, dans le royaume de Juda. Mais on le poursuivit à Lachish où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. L'exemple d'Amatsia est un appel à la vigilance dans notre marche avec Dieu, un roi qui a bien commencé, mal terminé. Et je crois que c'est un avertissement pour nous. 1 Corinthiens 10 nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous ne sommes pas à l'abri de nous éloigner de Dieu, de rentrer dans une démarche d'endurcissement. Et donc on peut regarder les raisons peut-être qui ont mené Amatsia à cette attitude. Verset 2, il nous était dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ce qui veut dire qu'il avait la volonté de servir Dieu, mais il y avait aussi sa volonté propre qui se manifestait également. Et quand on regarde le récit, le texte, on se rend compte qu'il y avait un certain nombre d'indices qui nous montrent cela, même dans la première partie de sa vie. Tout d'abord, on voit qu'il organise l'armée en faisant un recensement des moyens militaires. Il doit mesurer, savoir ce qu'il possède, ce qu'il a en main, mais il ne fait pas confiance à Dieu. On voit que dans la Bible, le recensement du temps de David, par exemple, avait été condamné parce que David ne faisait pas confiance dans les moyens que Dieu donnait. Lui, il doit savoir, il doit mesurer ce qu'il a. Lorsqu'il décide de recruter des mercenaires du royaume d'Israël, il ne consulte pas Dieu. C'est une décision qu'il prend de lui-même. On sait que cette décision, s'il n'était pas prise, aurait évité bien des problèmes par la suite. Lorsque le prophète vient lui annoncer ce projet n'est pas selon Dieu, sa première réaction, c'est qu'est-ce qu'il va faire des finances perdues, de ce qu'il possède. Alors c'était une réflexion qui était juste, mais on voit que c'est sa première objection qui lui vient. Cela explique probablement qu'il s'attribue la victoire finale. Il pense que Elle est le résultat de sa propre sagesse, de ses préparatifs, de ce qu'il a pu organiser au préalable. Et sur cette base, il pense organiser lui-même la suite. Il est possible aussi qu'il ait obéi un petit peu à contre-cœur à ce que le prophète lui demandait concernant les mercenaires, et que les conséquences désastreuses du pillage, etc., qu'on a vu, retourner un petit peu contre ce que le prophète avait dit. On voit en tout cas que la chute d'Amatia est le résultat d'un long processus marqué par le maintien subtil de valeurs d'attachement qui étaient placées en dehors de Dieu. Alors qu'en est-il de nous-mêmes ? Alors je crois que cela nous amène simplement à nous dire qu'il nous faut veiller, prier pour rester fidèles au Seigneur. Parce que pour Dieu, il y a un principe, il n'y a pas de favoritisme. Ézéchiel 3 nous dit « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. » Donc c'est Dieu qui s'adresse au prophète Ézéchiel. « Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. » Et toi, tu sauveras ton âme. Il y a un principe de droiture devant Dieu. Et une nécessité de veiller et prier pour garder un corps entier pour Dieu, parce que nous, on ne peut pas le produire par nous-mêmes. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre de son esprit. Nous sommes totalement incapables par nous-mêmes. Prier, veiller et prier pour nous-mêmes. Et puis, comme on le voit dans ce passage d'Ézéchiel, veiller et prier également pour les autres. Et je crois qu'il y a une action, un rôle de l'Église aussi, de veiller les uns sur les autres par rapport à cela, parce que nous avons tous un cœur partagé. Et donc nous sommes appelés à veiller, à prier, à demander l'aide de Dieu, mais aussi l'aide des autres aussi pour rester fidèles. Matthieu 26 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Luc 21, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est notre responsabilité individuelle et c'est notre responsabilité communautaire. Alors, veiller ne nous est pas naturel. Notre tendance est plutôt de nous endormir. C'est-à-dire de nous laisser aller à nos acquis, à notre vie naturelle, sans nous préoccuper de Dieu et de ce qu'il nous demande. On peut penser à la difficulté de veiller des disciples dans le jardin de Gethsémané. Jésus est dans une période difficile, on est dans un moment majeur dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus. Et les disciples n'arrivent pas à veiller. Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Dans l'exemple d'Amatia, veiller aurait pu consister à rechercher l'approbation de Dieu avant de décider de recruter les mercenaires. Il y avait, comme on l'a dit, un risque majeur pour la santé spirituelle du peuple. Veiller aurait été de se laisser toucher par les avertissements du prophète. Oui, il était tombé, il avait chuté, mais Dieu était là pour qu'il revienne à lui. Et veiller à ce moment-là aurait été d'écouter ce que le prophète disait avant l'engagement de conséquences irréversibles. Vous êtes appelé à veiller sur le champ de notre cœur. Je reprends la parabole du semeur, bien connue. Il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60. Notre 30, nous sommes appelés à porter du fruit pour Dieu, Nous avons cette responsabilité de ne pas laisser étouffer cette semence de Dieu par les épines, dans les épines. Et donc les épines, ben, c'est justement tout ce qui peut nous détourner dans notre cœur de ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on soit fructueux pour lui. Travailler pour Dieu également en discernant les motivations de notre cœur. Et là, je cite un passage qui date du Moyen-Âge, donc Hildegarde de Bingen, qui a vécu au XIIe siècle en Allemagne, qui était théologienne. Un passage où elle nous dit « À celui qui, de bon cœur, accepte volontiers la semence de mes paroles, j'accorde en surabondance les dons de l'Esprit-Saint, comme un bon champ. Mais celui qui parfois la reçoit, parfois la refuse, est comme un champ qui tantôt reverdit et tantôt se dessèche. Montre-moi comment tu travailles le champ de ton cœur et comment tu le cultives. Si ton travail intérieur me plaît, je te donnerai une excellente récolte. C'est selon ton travail que sera ta récolte et ta récompense. Ô homme, pourquoi n'as-tu pas regardé le champ de ton âme pour y enlever les herbes inutiles, les épines et les ronces en m'invoquant et en t'examinant toi-même ? Je crois qu'on a là une description imagée de ce qu'est veiller sur notre cœur, veiller sur notre vie. Veiller sur le champ de notre cœur, c'est se revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, car il s'agit, comme on l'a vu, d'un combat spirituel que nous avons à mener. C'est également persévérer dans la foi et dans l'espérance. Je voudrais citer Hébreux 10, à partir du verset 35, qui nous dit « N'abandonnez pas donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu nous aide dans cette démarche pour rester près de lui. Amen.